elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elle les confronte pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Radio Panique 105.4 avec l'équipe d'Elles en parlent encore, une émission de Vie Féminine Bruxelles. Vous savez bien, si vous nous écoutez régulièrement, que nous aimons vous parler de corps, et plus particulièrement du corps de femmes, d'expériences de femmes, ou de personnes qui ont été perçues comme femmes dans leur vie. Pour ce mois d'octobre, nous vous avons concocté une émission sur un sujet qui nous touche tous et toutes, directement ou indirectement, et sur lequel nous sommes pourtant bien mal informés, les contraceptions. La contraception existe depuis de nombreuses années et beaucoup sont les personnes qui utilisent encore les mêmes contraceptions que nos parents. Mais pourtant, on peut voir qu'elles se réinventent. La technologie peut nous aider, la nature aussi. Et toute la charge de celle-ci ne doit pas retomber sur les femmes uniquement. Pour vous parler de ce sujet, nous avons Bissy et Elsa en studio. Alice et Lisa qui sont également apporté leur pierre à l'édifice en distanciel. Et nous avons pour nous aider Alex et Stéphanie à la régie. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec quelques témoignages sur la contraception.
Ces dernières 10 années, j'ai testé des méthodes de contraception différentes. Et à mes 16 ans, j'avais un kyste qui a provoqué des saignements pendant 2 semaines. Donc après la thérapie, ma gynéco m'a prescrit la pilule pour régulariser mon cycle. Et quand j'ai rencontré mon premier copain quelques mois après, j'ai simplement continué avec cette pilule pendant quelques années. Et heureusement, sans aucun souci. Et après, pour des raisons de commodité, j'ai essayé l'implant, donc une autre méthode hormonale, qui a très bien marché pendant 18 mois. Mais là, je commençais à saigner constamment et j'étais obligée de me le faire retirer. Ensuite, je voulais tester une méthode sans hormones et je me suis fait mettre le stérilet au cuivre. Mais ça n'a pas bien marché parce que j'avais déjà des règles assez fortes. Du coup, elles étaient encore accentuées par le stérilet. Et par conséquent, le stérilet s'est aussi déplacé. Donc ça a été qu'une solution à court terme pour moi. Depuis 2 ans, là, je prends à nouveau la pilule. Et même si je ne cherche pas activement une alternative en ce moment, je n'en suis pas enthousiaste non plus.
J'ai commencé à prendre la pilule combinée à l'âge de 15 ans, après mon premier rapport sexuel. On m'a pas vraiment laissé le choix, c'était comme ça. Premier rapport sexuel, gynécologue, pilule. Comme pour toutes mes copines. Du coup, j'ai pendant 5 ans changé plusieurs fois de pilule, dû à des prises de poids, et aussi à un taux vraiment trop élevé de triglycérides dans le sang. Je faisais des prises de sang régulièrement à cette période-là. Et on m'a dit d'arrêter le sucre, on m'a dit que je mangeais trop de sucre. Chose qui n'était pas du tout le cas dans mon alimentation. Du coup, je me suis mise à vraiment contrôler tout ce que je mangeais, à faire énormément de sport, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était dû à la pilule contraceptive, en fait. Donc, je l'ai arrêtée sur un coup de tête. J'en avais marre. Et je pense aussi qu'elle jouait sur mon moral, mais sans vraiment m'en rendre compte, sans vraiment faire le lien à ce moment-là. Et cet arrêt brutal a mis mon corps en état de ménopause artificielle. On m'a alors conseillé de reprendre une pilule, mais cette fois une pilule progestative. Donc c'est une pilule qu'on prend tous les jours, sans pause. Et je suis revenue petit à petit à un poids normal pour mon corps, et mes examens sanguins étaient bons. Par contre, j'avais plus du tout mes règles avec cette pilule, mais ça m'arrangeait bien. Mais ça a toujours été difficile pour moi d'avaler une pilule tous les matins. Ça n'a jamais été un réflexe, je l'oubliais souvent. Et j'aimais pas non plus cette sensation de prendre un médicament tous les jours. Puis j'ai commencé petit à petit à faire le lien entre mes phases de déprime, d'angoisse, de baisse de libido et la prise d'hormones. D'ailleurs, tous ces effets secondaires me valaient aussi des incompréhensions avec mes partenaires, au niveau de la sexualité, mais aussi au niveau du mental, des moments où mon surplus d'émotions semblait anormal. Alors bien souvent, on mettait ça sur le compte des femmes qui sont toujours trop sensibles, prise de tête, puis avec le fameux « t'as tes règles ou quoi ?». Donc voilà, après toutes ces années, je me suis dit, c'est décidé, j'arrête de prendre des hormones. J'ai alors décidé d'arrêter la pilule et de passer au stérilet au cuivre. Je me disais, tant pis, j'aurai à nouveau mes règles, elles seront certainement plus abondantes et douloureuses, mais au moins je me sentirai moi-même et j'aurai plus de phases de montagne russe émotionnelle ou au contraire ces phases où je me sens sans émotion. Mais bon, je me souviendrai toujours du jour où j'ai posé ce stérilet chez ma gynécologue. C'était une douleur insoutenable. Je faisais malaise sur malaise, je suis restée 1 heure dans le cabinet, le temps que mon corps s'habitue. La douleur était aiguë, mais je luttais pour pas tomber dans les pommes, car il était hors de question pour moi de revenir aux hormones. J'avais attendu ce stérilet depuis trop longtemps. Mais ma gynécologue m'a dit que mon utérus était particulièrement petit, et que je ne le supporterais pas, et puis en plus, elle avait déjà eu peur de me le poser, étant donné que j'avais pas eu d'enfant. Le fameux mythe des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Donc elle me l'a retiré 1 heure après. Et rebelote, je suis revenue à une pilule progestative pendant plusieurs mois. J'étais perdue et je voulais pas utiliser uniquement le préservatif. C'est bête, mais j'ai toujours eu extrêmement peur de tomber enceinte et ça me rassurait de me dire que je ne pouvais pas, même le jour où la capote craque. Du coup, j'ai fini par me faire poser un implant qui contient les mêmes hormones que la pilule progestative, avec la charge de devoir y penser en moins. C'était déjà ça. Maintenant, ça fait 4 ans que j'ai un implant. Les premiers mois qui suivent la pose sont difficiles. Hypersensibilité, libido chamboulée, beaucoup de phases de déprime, sans émotion. Puis ça se stabilise au fur et à mesure des mois. Les derniers mois, par contre, avant de changer l'implant, j'ai une hausse de libido. Comme si, en fait, le corps se réveillait et que je me retrouvais à nouveau moi-même. J'ai eu un petit ami, d'ailleurs, qui avait voulu m'accompagner lorsque j'ai dû me faire opérer pour changer l'implant. Il a été choqué, je crois. Déjà de voir l'opération, mais aussi de découvrir quelque chose que lui ne vivra jamais. Et de voir une nouvelle cicatrice sur mon bras. Et cette carte que je garde toujours sur moi dans mon portefeuille qui certifie que j'ai un implant dans mon corps.
Eh bien, ces témoignages sont assez éloquents, je pense, de ce qui se passe pour beaucoup de femmes. Il y en a malheureusement que deux, mais on voit que c'est tout un chemin de vie, le choix de contraception. Personnellement, je me rappelle aussi avoir dû changer vraiment beaucoup, 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 beaucoup de fois de pilules parce que j'avais plein d'effets secondaires, notamment des suées, des bouffées de chaleur. Je me mettais à avoir chaud et à transpirer sans raison. Et du coup, j'ai dû aussi arrêter à la pilule et passer au stérilet. Et en effet, j'ai aussi vécu la pose du stérilet qui est quand même très douloureuse. Donc, je sais que ça a été un parcours du combattant. J'ai aussi perdu beaucoup de poids quand j'ai arrêté la pilule. Donc, on voit vraiment qu'on ne nous dit pas tout. Est-ce que, Bissy ou Elsa, vous avez vécu des choses...
Ouais, alors moi, la chose qui me frappe le plus dans tes témoignages, à côté évidemment de ces super longs parcours, tellement complexes avec des allées, des retours, des questionnements, des rebondissements, mais tout ça au dépend de ta santé physique et psychique. Moi, j'ai vraiment pu m'identifier à cette peur constante de tomber enceinte. J'utilisais aussi quand je couchais encore avec des personnes qui risquaient de me mettre enceinte. La capote et la pilule parce que j'avais vraiment super 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 peur et donc la capote ça me rassurait pas assez et donc je sais qu'il y avait des copines à moi qui me regardaient comme si j'étais un peu folle en mode mais tu prends la pilule et quand même tu prends quand même le contraceptif et le préservatif mais ouais cette peur constante. Je me rends compte que maintenant que je couche beaucoup moins avec des personnes qui pourraient me mettre enceinte, et bon, ça, c'est mon orientation sexuelle, c'est pas vraiment un choix. C'est plus la vie qui arrive, mais du coup, il y a vraiment une grande charge mentale énorme qui s'est enlevée de ma vie parce que, évidemment, j'ai toujours pensé aux maladies sexuellement transmissibles, mais je n'ai plus cette charge constante de. Et si je tombais enceinte?
Ouais, c'est un grand stress pour beaucoup d'entre nous. Surtout, comme on dit, la pilule, il faut la prendre tous les jours. Il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai toujours été connue, en tout cas, maintenant ça va mieux, mais en tout cas, durant ma jeune période d'adulte, c'était d'être super tête en l'air. Et donc, les moments où tu téléphones au pharmacien en mode « Ok, j'ai oublié 2 jours. Est-ce que je dois en reprendre une? Est-ce que je dois en reprendre 2? 3 ?» Personne ne sait ce qu'il faut faire. Tout le monde te dit « Ah oui, tu dois tous les prendre. » Tous te disent « Non. » Enfin, c'est... Et du coup, finalement, on est tous en stress H24. Et puis... voilà, il y a plein de choses qui arrivent dans des vies de femmes, de prendre des pilules le lendemain et de stresser. C'est vraiment, c'est vraiment des traumatismes.
Par contre, quelque chose auquel moi j'ai un peu plus du mal à m'identifier, donc j'ai aussi appris beaucoup sur la pilule, les hormones, via ma mère aussi qui m'a pas mal briefé là-dessus et je me suis rendu compte que c'était pas top. Mais comme j'avais aussi commencé à prendre la pilule comme Alice ou Lisa assez tôt, je pense à dès que j'ai commencé à avoir des rapports sexuels à 15 ans, quelque chose comme ça, moi j'avais vraiment du mal à mettre des mots sur les effets ou s'il y avait des effets négatifs, comme c'était ce que la chose à laquelle j'étais habituée et que j'avais pas des grosses prises de poids ou des choses comme ça, je n'arrivais pas à mettre les mots dessus. Et donc aujourd'hui je me dis, mais qui est-ce que... Bon, c'est peut-être un peu dramatique, mais qu'est-ce que j'aurais pu être? Ou qu'est-ce qui aurait pu être différent si je n'avais pas pris la pilule? Je sais que je ne saurais sûrement jamais ce que ça a vraiment fait à mon corps, si j'aurais eu des seins plus grands, plus petits, des règles différentes, une sexualité différente, des émotions différentes, mais voilà, c'est quelque chose par lequel les hommes ne passeront jamais, hein, par toutes ces questions.
C'est sûr, en tout cas, on se le pose tous. Bissi, il me semble que tu vas maintenant nous parler de la contraception digitale.
Oui, exactement. Je vais vous parler de la contraception digitale. Et tu venais de dire tantôt, Léa, que quand on avait une vie active ou une vie moins stable, que c'était pas évident de follow-up avec tous ces contraceptifs. Et justement, c'est un grand désavantage avec ça. Donc, quand on parle de contraception digitale, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la femtech, donc la technologie liées à la santé des personnes avec un utérus. C'est donc tous les logiciels, les diagnostics, les applications, les produits, les services qui sont axés sur la santé des femmes et qui peuvent inclure des produits qui ont trait à la grossesse, au bien-être sexuel des femmes, aux soins de santé du système reproductif et à l'empêchement de grossesse. Alors, petit disclaimer, toutes les femmes n'utilisent pas des contraceptifs, c'est important de le dire. Certaines femmes n'ont pas de cycle menstruel, certaines personnes qui ne sont pas des femmes ont des cycles menstruels et un utérus. Donc, on essaye d'inclure tout le monde là-dedans. Alors, la contraception digitale, en quelques mots, ben, ce sont des applications qui sont téléchargeables sur le téléphone ou des programmes qu'on peut utiliser sur son ordinateur et qui suivent des indicateurs naturels comme le cycle menstruel ou la température corporelle pour soit servir de contraceptif, soit comme un outil pour tomber enceinte, donc pour mesurer les périodes de fertilité, soit simplement pour connaître davantage sur son corps. C'est donc des applications qui permettent de ne pas utiliser de contraceptifs hormonaux. Ça, c'est leur plus grand avantage. Alors, personnellement, j'utilise une application qui s'appelle Clou. Ce n'est pas du tout une publicité
Moi aussi.
cachée. Et qui me sert ni comme contraceptif, ni pour empêcher une grossesse, mais simplement pour suivre mes cycles menstruels et pour être au courant, voilà, être plus en symbiose avec son corps, un peu plus savoir
Quand est-ce que ça va arriver?
quand est-ce que ça va arriver aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est super pratique. Alors, comment ces applications elles fonctionnent comme contraceptifs? Donc notre température corporelle, elle change tout légèrement pendant nos cycles menstruels. Donc en effet, quand on ovule, la température monte parce que notre corps produit de la progestérone. Et ce changement de température, il est très léger et il ne peut être mesuré que par un thermomètre spécial qui doit être procuré en plus de l'application. Donc la plupart de ces applications, bah, il faut acheter l'application et on vous envoie un thermomètre. Et donc ce changement de température, il se produit après le moment où nous sommes fertiles. Donc ces applications servent donc pas à prédire sur base, enfin servent pas à prédire les moments de fertilité présents, mais sur base d'un algorithme et des données passées, elles savent prédire les futurs moments de fertilité et de non-fertilité. Et donc un petit rappel, un petit topo sur nos cycles menstruels. La production de l'ovocyte, qui, combinée avec un spermatozoïde, crée un embryon, se produit en cycle. Et donc, une fois fécondé, cet ovocyte s'implante dans l'utérus et grandit. Si l'ovocyte n'est pas fécondé, il meurt et le nid dans l'utérus qui s'est formé avec lui meurt aussi. Ce nid, il est riche en vaisseaux qui sont expulsés sous forme de menstruation. Ces menstruations libèrent de l'espace pour la formation d'un nouveau nid, pardon. La production de l'ovocyte se fait en phase, donc il y a d'abord le follicule dans l'ovaire qui grandit progressivement en produisant de plus en plus d'estrogènes qui pousse à la formation de la couche de l'utérus qui prépare le nid et qui se transforme en ovocyte lors de l'ovulation. L'ovulation, c'est la troisième phase. Le petit follicule, il est dans sa phase de croissance maximale. L'estrogène est au max, l'hormone libère l'ovocyte. Le follicule se transforme en corps jaune qui est riche en cholestérol qui nourrit à son tour le nid. Et un nouveau cycle commence en menstruation si cet ovocyte n'est pas fécondé à temps. Et donc le col de l'utérus, il est synchronisé en fait au cycle menstruel et il se renforce ou relâche. Pendant les 11 premiers jours du cycle, la muqueuse de l'utérus forme un maillage serré qui laisse peu de chance aux spermatozoïdes de passer. Et autour des jours de l'ovulation, cette muqueuse, elle se relâche et elle laisse passer les spermatozoïdes plus facilement. Et en fin de cycle, la muqueuse est moins accessible. Alors, est-ce que c'est un vrai contraceptif, ces applications? Et je vais vous parler plus précisément d'une application qui s'appelle Natural Cycles, dont Elsa m'a parlé, et qui a été reconnue en Europe et aux États-Unis comme un nouveau moyen de contraception, donc vraiment tout officiel par le planning familial. C'est un moyen de contraception aussi sûr que la pilule, voilà, et qui est advertised dans les plannings familiaux, etc. Et donc, cette application, elle se vend comme étant à 93% sûre. Cependant, un scandale en 2018 ébranle autour de sa sûreté avec de nombreuses femmes qui sont tombées enceintes malgré l'utilisation de l'application. Alors, il est important de se questionner pourquoi cette application a été créée. Donc, elle a été créée par une femme. C'est beaucoup mis en avant par cette application, une application féministe, émancipatrice, etc. Mais elle a créé cette application parce qu'elle souhaitait tomber enceinte. Donc pour elle, c'était un outil pour connaître ses moments de fertilité et optimiser ses chances de tomber enceinte. Et donc c'est seulement par après que ça marche aussi dans le sens inverse, pour empêcher une grossesse. Alors l'autre grand bémol, c'est qu'il faut être super précis. Tu ne peux pas faire des grasses mats ou être en gueule de bois parce que tu dois mesurer ta température chaque matin. Et évidemment, tu dois aussi avoir un cycle régulier. Dès que ton cycle est irrégulier, en fait, c'est plus risqué. Et donc, tu auras beaucoup plus de red days qui vont être affichés par l'application, où l'application va te dire, là, c'est pas sûr, il faut que tu utilises un autre contraceptif en plus. Alors, cette application, elle utilise aussi massivement la promotion via des influenceuses sur les réseaux sociaux comme Instagram. Et elle a été critiquée pour publicité mensongère dans laquelle la fiabilité du produit est largement exagérée. Mais surtout, comme je l'ai dit, cette application, elle a été créée par et pour une femme qui est dans une relation stable, avec un style de vie très stable. Donc, elle a 30 ans, elle n'a pas beaucoup de fièvre, elle n'a pas de gueule de bois, elle connaît bien sa fertilité, son téléphone n'est jamais déchargé ou cassé, elle se réveille tous les matins à la même heure, avec son téléphone chargé et le thermomètre à la main pour, hop, mesurer sa température. Et donc, si on ne se retrouve pas dans cette définition, ce qui est le cas de nombreuses personnes, cette application, elle n'est pas pour vous et vous risquez une grossesse alors que vous vous fiez à la sûreté de ce produit. Donc, je trouve que là, c'est assez dangereux, en fait. Et donc, je voulais vous parler d'un dernier point et c'est la gratuité, la disponibilité de ces applications. Donc, cette application Natural Cycles, elle est payante. Mais il y a aussi beaucoup d'applications comme Clou qui sont gratuites. Alors, comment est-ce que c'est possible? Parce qu'on sait, en 2020, quand un produit est gratuit, il y a une enroule. Et donc, très sûrement, on est en train de vendre nos données. Et donc, effectivement, c'est des données extrêmement intimes que les utilisateurs et utilisatrices partagent via ces applications. Et ça pose des grosses questions éthiques. Alors, par exemple, pour l'application Natural Cycles, qui est payante, une femme américaine qui, non seulement, est tombée enceinte avec cette application, elle a communiqué que son équipe de service clientèle a également ajouté ces informations à son profil d'utilisateur sans son consentement. Donc plein de petits trucs comme ça. Et donc de manière générale, en fait, le partage des données des applications de santé mobile, c'est une pratique courante. Et très souvent, ça se fait de manière légale, mais c'est loin d'être transparent. Les régulateurs devraient mettre beaucoup plus de l'accent sur les responsabilités, sur le contrôle et le traitement des données, et devaient divulguer toutes les pratiques de partage des données pour permettre aux utilisateurs de choisir quelles données vont être partagées ou pas et avec qui. Donc les développeurs d'applications partagent régulièrement et légalement les données des utilisateurs. Et j'ai fait un petit tour sur Clou, par exemple, pour aller voir, parce que Clou, justement, vend un peu son application gratuite en disant on est une équipe 100% meuf et vos données ne sont pas vendues à des grosses boîtes. Et alors, effectivement, j'ai commencé à lire, et c'est même si elles essayent que ce soit lisible, c'est quand même un long truc, ça donne pas hyper envie de le lire, quoi. Et en gros, elles disent que les applications, les données sont que elles payent des personnes pour traiter les données. Donc, en mode, nos données sont utilisées pour des études scientifiques, pour faire avancer la science, mais tout ça de manière hyper anonymisée, etc. Voilà, je ne sais pas, je me suis pas assez plongée dedans. Je trouve ça quand même louche, mais au moins, les informations étaient facilement trouvables pour cette application. Elles étaient assez transparentes là-dessus. Mais donc, voilà, lorsqu'une application elle est gratuite, posez-vous les bonnes questions, informez-vous sur l'application, sur le traitement de vos données, tant que vous avez le contrôle. Et surtout avec ces applications digitales, informez-vous aussi sur vraiment la fiabilité des produits et sur est-ce que vous correspondez au public cible. Et voilà, il n'y a pas de honte à ne pas correspondre à ce schéma qui est attendu de nous.
Mmh, ouais. Déjà, deux réactions par rapport à ta chronique. C'est d'abord, oui, Clou, moi aussi je l'ai et je me pose aussi certaines questions parce que, par exemple, sur l'application, tu peux noter quand tu as eu des rapports. Mais je trouve ça quand même bizarre de se dire, voilà, notre téléphone, il a un update de toutes les fois où on a eu un rapport. Ben non, en fait, désolée, mais c'est pas pour moi. Sinon, ben, pour ce que tu disais de la fiabilité de l'application, déjà 93%, oui, c'est déjà, ça laisse quand même une bonne fenêtre de risque. Alors qu'on sait que ben, avec les pilules et les stérilets qui sont censés être à, je sais pas moi, j'ai l'impression, 98% pour le stérilet et 99% pour la pilule, on a tous entendu des histoires de gens qui ont été enceintes sous pilule, sous stérilet. Donc moi je dirais qu'il n'y a rien de magique, évidemment que ça n'a pas marché. Et malheureusement moi, malgré que ça fait je ne sais plus combien d'années, mais déjà 15 ans au moins que j'ai mes règles sont toujours hyper irrégulières, donc je ne peux pas malheureusement utiliser cette application. Elsa, tu as quelque chose à dire ?
Oui, non, juste pour dire que j'avais aussi entendu mais justement sur les ventes de données que ça pouvait être vendu à des compagnies d'assurance qui en fait, tu vois, par rapport, je ne sais pas si tu avais regardé ou pas, mais qui vont augmenter après les coûts des assurances en fonction, si, parce que du coup, ils voient si les personnes sont en bonne santé ou pas, ou si justement, quel mode de vie ils ont, etc. Donc c'est vrai que ça fait un peu flipper.
Mais de manière générale, ou est-ce que ton assurance sera quelle... Enfin, ça va être un gros tas de données que les assurances vont utiliser de manière générale pour augmenter, par exemple, les assurances qu'ils vont vendre aux femmes qui ont entre 30 et 40 ans, par quelque chose comme ça.
Je ne connais pas précisément, j'ai juste une spécialiste qui disait ça. Mais, ouais. Mais après, bon, c'est vrai pour toutes les applications, en fait. Hein, mais c'est vrai que là, c'est vraiment c'est assez délicat. Hyper,
Ouais, en tout cas, il y a plein de questions éthiques qui se posent. Et donc, il faut rester vigilant avec ce qu'on utilise et l'utiliser de manière intelligente. On va poursuivre avec une chronique de Lisa. En distanciel avec les méthodes naturelles de contraception.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler des méthodes naturelles de contraception. J'avoue qu'au début de ma recherche, je n'en savais rien et j'ai l'impression que généralement, il y a très peu d'infos et de sensibilisation à l'école ou chez le gynéco sur ce thème-là. Il n'est donc pas étonnant que les stéréotypes négatifs soient répandus. Ainsi, la contraception naturelle est souvent considérée un truc de hippie basé sur des phases de la lune, des calendriers, etc. Et surtout pas comme une méthode fiable. Mais bon, spoiler, c'est bien plus compliqué que ça. Commençons par une définition de la contraception naturelle. Normalement, elle est définie comme l'ensemble des méthodes contraceptives qui ne nécessitent ni l'hormone ni les méthodes barrières, comme le préservatif, le diaphragme, le stérilet en cuivre, etc. Depuis une dizaine d'années, on peut observer que l'intérêt pour ces méthodes augmente dans nos sociétés occidentales et qu'il y a notamment pas mal de jeunes qui veulent découvrir les alternatives à la contraception hormonale pour éviter les risques de ces méthodes-là et aussi pour mieux connaître leur corps. Et j'avoue que moi aussi, j'ai commencé à me poser des questions là-dessus après avoir pris la pilule pendant pas mal d'années. Ceci dit, je ne veux absolument pas faire la guerre contre la pilule et compagnie parce que, à un niveau personnel, elle me facilite la vie depuis des années, sans me poser de problèmes visibles. Et je crois que les méthodes comme la pilule ont apporté beaucoup au mouvement de libération sexuelle depuis les années 60. Mais il est aussi vrai que les circonstances, nos connaissances et nos possibilités changent constamment. Donc il me semble bien et raisonnable d'ouvrir nos esprits aux alternatives. Quelles sont ces alternatives donc ? Il y a évidemment le mal famé retrait du pénis avant l'éjaculation. Et je dis malfamé parce que les données disent clairement que ce n'est pas une méthode fiable, parce que le retrait n'est pas facilement contrôlable, et aussi parce qu'il peut y avoir des spermatozoïdes dans le liquide préséminal qui s'écoule du pénis déjà avant l'éjaculation, et qui peut d'ailleurs aussi entrer dans le vagin à travers les doigts, par exemple. Ensuite, la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée, ou bien la méthode MAMA, est praticable pour les personnes qui ont accouché jusqu'à 6 mois après l'accouchement, qui allaitent exclusivement et qui n'ont pas les règles. Donc ça regarde une partie de la population bien spécifique. Maintenant, je vais vous parler des autres formes qui sont plus vastement praticables. Ce qui est central pour ces méthodes, c'est l'identification de la dizaine de jours fertiles autour de l'ovulation. Après, on évite simplement, entre guillemets, des rapports qui pourraient permettre à l'ovule et aux spermatozoïdes de se rencontrer pendant ce jour-là. Une possibilité sont les différentes méthodes du calendrier qui prévoient une observation des règles et une estimation de jours fertiles qui se base là-dessus. Il faut dire que ces formules-là ne sont pas hyper fiables parce que l'ovulation n'est pas totalement prévisible et les jours fertiles peuvent donc dépendre d'une multitude de facteurs, même si la personne concernée juge d'avoir un cycle régulier. Après, il y a des méthodes qui prévoient une observation du corps pour identifier les jours fertiles. Les caractéristiques physiologiques qui sont observées le plus souvent sont la température du corps, la position du col de l'utérus au fond du vagin et la texture de la glaire cervicale. Une température basse, un col utérin plutôt mou, ouverte et élevée, et une glaire cervicale abondante, liquide et transparente indiquent le jour fertile. Mais il faut savoir que soit la température du corps, soit la texture de la glaire cervicale peuvent être impactées par des facteurs différents, comme l'état de la santé, la consommation d'alcool, des fortes émotions, du désir sexuel, etc. Donc il n'est généralement pas conseillé de faire confiance à un seul de ces indicateurs. Une méthode qui a prouvé son efficacité, par contre, c'est la symptothermie, qui combine l'observation précise de ces trois caractéristiques physiologiques. Selon l'OMS, si elle est bien pratiquée, la symptothermie est plus fiable qu'un préservatif masculin, est à peu près aussi fiable que la pilule ou le stérilet en cuivre. J'avoue que c'est beaucoup mieux que je l'aurais cru. Et ces derniers jours, j'ai eu la possibilité de parler avec une copine de ma sœur qui utilise cette méthode, donc je vais résumer ce qu'elle m'a raconté. Pour faciliter les choses, je vais l'appeler Nina, ici. Donc Nina a presque 40 ans et elle utilise la méthode de la symptothermie depuis 12 ans, et elle adore. Après avoir pris la pilule pendant des années, elle voulait tester une contraception sans hormones et elle s'est donné environ 6 mois sans la pilule pour observer son corps et son cycle. Pendant cette période-là, elle et son copain ont simplement utilisé les préservatifs masculins. Nina a acheté un thermomètre avec 2 décimales en pharmacie pour une dizaine d'euros et avec ça, elle a pris sa température vaginale chaque matin après le réveil pendant 4 minutes environ. Et elle a bien noté les résultats avec un stylo sur une feuille, même si désormais il y a aussi des applis et des outils digitaux très sophistiqués pour faire cette documentation. Avec le temps, Nina a commencé à prendre sa température moins souvent, mais elle prend toujours après la fin de ses règles. Et si elle voit que sa température est plus élevée pendant au moins 3 jours, elle se considère infertile. D'ailleurs, Nina examine son col utérin avec ses doigts pour voir s'il indique une phase de fertilité. En plus, Nina évite les rapports sans préservatif au début de son cycle parce que le moment d'ovulation et donc le début de ses jours fertiles reste pas vraiment prévisible. Néanmoins, Nina dit d'avoir trouvé la méthode idéale pour elle et pour son couple. Et pendant ces 12 années, elle est devenue maman volontairement 3 fois. Et après chaque grossesse, c'était tout à fait faisable pour elle de reprendre la symptothermie. Un point fort de cette méthode est aussi qu'elle peut être utilisée par des personnes avec des cycles pas super réguliers et que le coût des outils nécessaires est très bas. Par contre, il faut de la discipline et du rigorisme au quotidien pour bien pratiquer cette méthode. Et en plus, elle n'est pas conseillée à des personnes qui ont déjà des traitements hormonaux. Et si on ne veut pas utiliser du préservatif, un diaphragme, etc. du tout, il faut s'abstenir pendant quelques jours chaque mois, donc on renonce à une certaine flexibilité dans sa vie sexuelle. Après, il est absolument vrai que chaque méthode de contraception a ses avantages et ses contraintes, et même des risques. Personnellement, je ne crois pas que j'oserais de passer à la symptothermie pour l'instant, mais je voudrais voir plus de sensibilisation là-dessus parce que effectivement, elle peut être une option tout à fait appropriée pour certaines personnes. Ce que je trouve pas cool, par contre, ce sont des blogueuses ou des youtubeuses qui condamnent la contraception hormonale
qui disent que les personnes qui l'utilisent sont des esclaves ignorantes de l'industrie pharmaceutique et que les méthodes naturelles sont fiables à 100%, parce qu'aucune méthode ne pourrait jamais l'être. Et voilà, c'était tout de ma part. J'espère que vous avez trouvé ces infos intéressantes, utiles, etc. Et prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine.
Vamos a repetir esta conversación 35 veces. 35 veces vamos a hablar de la misma mierda.
No me llama cuando se muera fuera y ni tan molesta. Todo lo que sé de ti es lo que sale en las redes. Si escribo tu nombre y otra vez vas a perder el avión. Y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Dime qué quieres hacer, solo sabes correr para adelante, engañarme otra vez. No va a salvarte, estás enfermo de ti. Cállate, esto no va a ninguna parte. Estoy harta de hablar y de esperarte y de mirar el móvil hasta tan tarde. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Pienso con quién estás cuando no estás conmigo. Odio que mis planes no sean tu camino. Y haberlo negado por estar contigo. ¿Y quién me va a curar el corazón partido? Me da miedo los meses que se van volando. Me he quedado flaquita de esperarte tanto. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo?
Vous écoutez l'équipe d'Elles en parlent encore sur Radio Panique 105.4 avec pour thème la contraception. Maintenant, nous allons écouter la chronique d'Alice, aussi en distanciel, qui va nous parler des effets néfastes de la contraception et le manque d'informations.
Le thème de notre émission aujourd'hui est bien souvent évoqué en superficialité. Nous sommes mal informés sur ce sujet qui pourtant fait partie de notre quotidien. C'est pourquoi j'aimerais parler aujourd'hui de l'envers du décor, de la charge mentale que ça représente et des effets secondaires que peuvent engendrer la prise d'hormones qui se trouve dans les moyens de contraception les plus courants. Avant toute chose, je ne pouvais pas aborder le sujet de la charge mentale sans vous faire un listing des différents moyens de contraception qui existent. Alors tout d'abord, il existe des moyens de contraception sans hormones. Il y a le stérilet au cuivre, autrement appelé dispositif intra-utérin, DIU. C'est un petit dispositif en forme de T en polyéthylène d'environ 3 cm. Le cuivre rend inactif les spermatozoïdes et agit sur l'anidation. Il se garde de 4 à 10 ans. Il y a ensuite le diaphragme et la cape cervicale. Ce sont tous les deux des sortes de cups en silicone ou en latex qui se glissent dans le vagin au contact du col de l'utérus pour empêcher le passage des spermatozoïdes. Ils peuvent être placés jusqu'à 2 heures avant le rapport sexuel et doivent être laissés en place pendant 8 heures après le rapport. Attention, ils doivent être retirés au plus tard dans les 24 heures qui suivent le rapport. Ensuite, il existe les spermicides, qui existent sous forme de crème ou d'ovules, qui détruisent les spermatozoïdes. Ils s'appliquent 5 à 10 minutes environ avant un rapport et la durée d'action varie en fonction des types de spermicides. Par exemple, ça va de 60 minutes pour les ovules jusqu'à 8 heures pour les crèmes. Et attention, il ne faut pas utiliser de savon pendant 6 à 8 heures qui suivent le rapport, sinon ça rend le spermicide inactif. En fait, ils sont plutôt faits pour être utilisés en complément d'une contraception barrière, comme le diaphragme ou la cape cervicale par exemple, ou encore l'éponge contraceptive qui s'insère dans le vagin contre le col de l'utérus et qui empêche l'entrée du sperme en l'absorbant. Et enfin, il y a le préservatif féminin, qui est en fait une sorte de gaine en nitrile ou en polyuréthane, qui est muni d'anneaux souples aux deux extrémités. Il se place en fait comme un tube dans le vagin, avec l'anneau interne contre le col utérin et l'anneau externe sur la zone des lèvres. Il peut être mis en place plusieurs heures avant le rapport sexuel, donc ça c'est pratique, et avec le préservatif masculin, ils sont les seuls moyens contraceptifs à protéger contre les IST. À présent, je vais m'attarder sur les moyens de contraceptifs hormonaux. Donc les deux types d'hormones que l'on retrouve dans ces moyens de contraception, mais qui ne sont pas toujours combinés, sont les œstrogènes et les progestérones. L'œstrogène est directement lié au développement de ce qu'on appelle les organes sexuels féminins, c'est-à-dire l'utérus et les glandes mammaires essentiellement, et est également impliqué dans le contrôle du cycle menstruel. Donc en fait, elle permet de bloquer le système ovarien qui permettra une grossesse. Et les hormones progestatives, elles suppriment l'ovulation et épaississent la glaire cervicale. C'est en fait le fluide au niveau du col de l'utérus qui laisse passer les spermatozoïdes. Et aussi, elles amincissent l'endomètre. Donc c'est la muqueuse de l'utérus, puisqu'en fait une grossesse se met en place lorsque cet endomètre est assez épais. Donc nous avons en tête de liste des contraceptions hormonales la pilule, un des moyens contraceptifs les plus répandus. Il existe deux sortes de pilules. La pilule combinée, qu'on appelle aussi œstroprogestative, qui est composée d'œstrogènes et de progestérone. Il existe plusieurs générations de cette catégorie de pilules, mais en tout cas elle est à prendre tous les jours à la même heure, avec une pause pendant la semaine de menstruation. Et le second type de pilule, c'est la pilule progestative qui, elle, n'est composée que de progestatifs en faible quantité. Elle est à prendre en continu, elle aussi, même pendant la période des règles. Ensuite, il existe l'implant contraceptif. C'est un petit bâtonnet en plastique souple de la taille d'une allumette qui est placé sous la peau du bras. Il libère uniquement des progestatifs pendant 3 ans. Ensuite, il existe le patch contraceptif qui est à coller sur les fesses, le ventre ou le bras, mais attention, pas le sein, qui libère, lui, des œstrogènes et des progestérones. Il est à changer tous les 7 jours avant la semaine de menstruation. Il y a aussi l'anneau vaginal, qui a un anneau flexible en plastique poreux qui contient œstrogènes et progestérone. Il s'insère au fond du vagin et les hormones, en fait, se diffusent à travers la paroi vaginale. Il peut se garder jusqu'à 3 semaines avant la semaine de menstruation. Il existe aussi la contraception par injection, qui est en fait tout simplement une piqûre de progestatif dans la fesse qui se libère dans le sang pendant 3 mois. Et enfin, il y a le stérilet hormonal, le DIU hormonal, qui libère une hormone progestative en petite quantité et qui se garde lui aussi de 4 à 10 ans. Je vais aussi mentionner la pilule du lendemain ou la pilule d'urgence, qui n'est pas un moyen de contraception, il faut le rappeler, et qui s'utilise, elle, lorsqu'il y a un rapport sexuel non protégé ou mal protégé. Elle est moins efficace qu'une méthode régulière, et plus elle est utilisée tôt après le rapport, plus elle sera efficace. Elle contient un progestatif qui retarde l'ovulation, mais n'est pas efficace si la grossesse est déjà en cours. Il existe 2 types de pilules du lendemain, allant de 3 à 5 jours d'efficacité. Après cette longue liste, on va s'intéresser maintenant à la charge mentale inconsidérée que représente la contraception. Dans un couple hétérosexuel, bien souvent, l'homme se dit que s'il y a grossesse, c'est la femme qui porte le bébé. Donc il semble logique que c'est à elle que revient la responsabilité de la contraception. Ce qui semble d'ailleurs paradoxal ou peut-être un peu hypocrite, c'est que beaucoup d'hommes ne posent même pas la question à la femme lors d'un premier rapport sexuel pour savoir si elle a une contraception. Et c'est surtout un sujet qui concerne tout le monde. Aussi, en termes d'achat, cela représente un gros investissement suivant le moyen de contraception utilisé. Une plaquette de pilules pour 3 mois peut aller de 2,50 euros jusqu'à 40 euros, même si c'est souvent remboursé, et un implant contraceptif, lui, peut aller jusqu'à 100 euros. Par exemple, la pilule peut parfois être oubliée. D'ailleurs, beaucoup se mettent une alarme sur leur téléphone pour la prendre à heure fixe. Ou certains dispositifs sont pas évidents à utiliser au début, comme la cape cervicale. Et l'efficacité du moyen choisi va d'ailleurs en découler, car il y a beaucoup de différences entre l'efficacité théorique et l'efficacité pratique de la contraception. Aussi, par exemple, la pose du stérilet peut être douloureuse. On a souvent attribué cette douleur au fait que la femme n'ait pas encore eu d'enfant. Et aussi, on a longtemps cru que le stérilet était la cause d'infections qu'on n'expliquait pas vraiment et qui pouvaient provoquer la stérilité. D'où aussi le fait qu'il fallait surtout pas le poser sur une femme qui n'avait jamais eu d'enfant. Donc aujourd'hui, il y a encore des médecins qui ne sont pas à jour, alors que les recommandations internationales sont claires, il n'y a pas de risque. Au-delà de cette charge mentale et cette responsabilité, cette responsabilisation, on n'a pas toutes la même manière de supporter les hormones. Le choix d'une contraception hormonale est souvent pris pour la régularité des règles, l'arrêt de l'acné, parfois pour la prise de poids, mais il existe de nombreux effets secondaires peu contrôlés. La prise d'hormones, dans certains cas, peut engendrer des kystes au sein, une forte prise de poids non désirée, une perte de cheveux, une perte de libido, ou encore un impact sur le mental pouvant aller jusqu'à la dépression. On va souvent nous parler des effets secondaires « basiques », entre guillemets, des 3 premiers mois, c'est-à-dire des règles irrégulières, des saignements, qu'on appelle des spottings, des contractions, des nausées. Mais d'autres effets secondaires plus inquiétants peuvent surgir, même s'ils ne sont pas systématiques, comme des tensions aux mollets, des bouffées de chaleur, des douleurs, des petits points devant les yeux, etc. En tout cas, les gros risques principaux de la pilule sont des risques vasculaires qui touchent le système veineux. Il s'agit de risques de thrombophilie, c'est-à-dire le fait de faire une phlébite ou une embolie pulmonaire, mais il y a aussi des risques artériels, des risques d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux. Les hormones présentes dans ces contraceptifs peuvent être cancérigènes de catégorie 1 et touchent les seins, le foie, le col de l'utérus et les voies biliaires. D'où l'importance de faire une anamnèse au préalable, c'est-à-dire des recherches sur les antécédents médicaux familiaux avant la prescription pour avoir une idée des risques encourus. En 2017, la polémique autour du stérilet hormonal Mirena distribué par le laboratoire Bayer prouve l'impact énorme qu'ont les hormones sur le corps. À ce moment-là, plus de 15 000 témoignages ont été récoltés sur les réseaux sociaux, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne ou aux États-Unis. Et des actions ont même été menées en justice. La notice en fait, de ce stérilet ne comportait pas tous les effets secondaires. Elle alertait sur quelques vertiges et une simple fatigue. Aussi, les professionnels de santé ne s'attardent la plupart du temps que sur les douleurs gynécologiques lors des visites de contrôle. S'il y a visite de contrôle d'ailleurs. Comme les douleurs au sein par exemple. Mais beaucoup de femmes ont dû faire face à la difficulté de parler de leur perte de libido ou d'état dépressif. En fait, on ne nous aide pas à faire le lien ou bien souvent on croit que ça vient de nous et pas des hormones. D'ailleurs, lors de cette polémique, le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français se disait être surpris de ses réactions dans une interview et se disait être dans l'incompréhension face à, je cite, « ce déploiement d'énergie contre cet industriel et contre cette contraception qui aide des millions de femmes ». Il insiste sur le fait que le stérilet Mirena sauve des milliers de femmes de l'hystérectomie et conseille à chaque femme de voir ses effets secondaires avec son médecin, en les considérant en fait comme des exceptions ou des cas à part. C'est pourquoi il est important de lutter pour une meilleure information au moment de la prescription d'une contraception qui peut avoir des effets secondaires qui ne sont pas gynécologiques, et aussi pour accorder de l'importance aux effets souvent minimisés par les médecins qui sont parfois mal informés eux-mêmes. D'ailleurs, une même inquiétude s'est fait ressentir face aux pilules de troisième génération. Elles contiennent les mêmes œstrogènes que celles de deuxième génération, mais avec un progestatif différent. Et lorsqu'elles sont apparues il y a 25 ans, elles avaient des qualités supérieures concernant la peau et les problèmes de saignement, mais en fait, on s'est rendu compte que les effets secondaires vasculaires sont deux fois plus élevés. À ce moment-là, beaucoup de médecins rassuraient en disant que ces risques ne sont présents qu'au cours des 6 premiers mois, ce qui me paraît assez surréaliste, et puis cela démontre bien que les risques encourus par les femmes sont largement minimisés. Enfin, je ne pouvais pas parler de ces hormones synthétiques sans parler de l'impact écologique qu'elles peuvent avoir sur l'environnement. Ces hormones se retrouvent inévitablement dans les eaux et rivières et agissent sur les animaux comme des perturbateurs endocriniens. Une fois ingérés, ils sont appelés des xénoœstrogènes et dérèglent l'action des hormones responsables du développement des organes sexuels de la reproduction et baissent le taux de fertilité. Alors j'espère ne pas vous avoir fait trop peur après cette chronique un peu alarmante. Mais le but était d'alerter sur certains risques, même s'ils ne sont pas toujours systématiques, car on n'est jamais réellement prévenu lorsqu'on nous propose une contraception hormonale. Et c'est souvent le cas d'ailleurs d'adolescentes à qui on prescrit une pilule presque par réflexe.
Eh bien, merci Alice pour cette chronique qui nous montre une fois de plus qu'en fait, on nous fait croire que les contraceptifs et la pilule, c'est quelque chose de très anodin. Il faut savoir que ça ne l'est pas, même si tout le monde... En général, le prend, ce n'est pas anodin pour notre santé. Et en parlant de tout ce que Alice a dit, de la charge mentale qui reposait sur les femmes, on va enchaîner justement avec Elsa, qui va nous parler du coup de la contraception masculine.
Oui, donc je vais vous parler des contraceptions masculines. Donc déjà, selon une enquête Solidaris en Belgique en 2017, il y a 69% des femmes qui utilisaient un moyen de contraception contre 34% des hommes. Donc on voit bien qu'il y a vraiment beaucoup plus de femmes qui prennent en charge la contraception que les hommes. Et ce, alors que les hommes sont à peu près fertiles, bon, pas toute leur vie, mais presque tous les jours, alors que les femmes, c'est 5 jours par mois. Donc voilà. Juste pour prévenir, donc, dans cette chronique, je vais parler des hommes et des femmes, mais par homme, je vais parler des personnes qui produisent du sperme, et par quand je dis femmes, c'est les personnes qui ovulent et qui ont un utérus. Voilà. Donc, je vais d'abord présenter, enfin, je vais présenter les différentes méthodes contraceptives masculines qui existent ou qui sont en cours d'existence, on va dire, qui seront bientôt sorties apparemment, et en même temps des freins, en gros, pourquoi il n'y en a pas tellement par rapport aux contraceptions féminines et pourquoi c'est vraiment plus les femmes qui prennent en charge la contraception. Alors, donc déjà, il y a la bonne vieille méthode du retrait, qui est un peu traditionnelle. Mais il faut quand même faire attention parce que même avant l'éjaculation, donc il y a du liquide séminal où il y a quand même des spermatozoïdes. Donc voilà. Il y a donc bien sûr le préservatif qui est souvent vu en fait surtout comme une protection contre les infections et les maladies sexuellement transmissibles, mais qui est bien aussi un contraceptif. Il y a ensuite la vasectomie. La vasectomie, en quoi ça consiste? En fait, il y a les spermatozoïdes pour passer des testicules à l'urètre, et ensuite ça va dans le sperme, quoi. Les spermatozoïdes passent par les canaux déférents, donc tout simplement, c'est les sectionner, voilà. Après cette opération, l'homme peut quand même éjaculer, mais juste le liquide séminal n'a plus de spermatozoïdes. Donc l'opération commence à se produire. Donc c'est à l'hôpital, c'est fait par un urologue, ça dure à peu près 5 minutes. C'est une anesthésie locale, ça fait pas mal. Ça n'entraîne aucun effet secondaire, que ce soit sur l'érection, l'éjaculation, le désir, le plaisir ou le fonctionnement hormonal. Donc ça, il faut quand même le savoir. Ça peut être réversible. Mais c'est vraiment pas sûr que ce soit... Enfin, c'est pas sûr à 100%. En gros, enfin, j'ai vu un chiffre, mais je sais pas si c'est bon. Mais en gros, si l'opération, pour que ce soit réversible, est réalisée dans les 10 ans, il y a 50% de réussite. Voilà, donc c'est pas non plus super, mais en tout cas, c'est possible. C'est aussi possible de se conserver un petit échantillon de sperme à côté. Voilà. Juste pour dire qu'il y a vraiment des grosses différences en termes de pourcentage d'hommes vasectomisés, même ne serait-ce que entre pays européens. Par exemple, en 2008, il y avait 8,4% d'hommes en Belgique qui étaient vasectomisés, 21% en Grande-Bretagne et 0,8% en France. Donc vraiment quasiment rien en France. Pourquoi ? C'est notamment parce que en fait, les médecins présentent jamais toutes les méthodes en France. Alors par exemple, au Royaume-Uni, en fait, les médecins, ils présentent tout en fait à tout le monde. Alors qu'en France, ils vont avoir leur patient ou leur patiente et ils vont dire « Ah voilà, votre vie, hop, pilule ou hop, truc, tu vois. » Donc voilà, c'était important de parler de ça. Autre méthode, il y a le slip chauffant ou RTC, remonte couille toulousain. Alors, donc le remonte couille toulousain, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est vraiment pas mal, franchement, il y a même des tutos et tout sur YouTube. On peut le coudre soi-même. Donc c'est en fait le principe, c'est les couilles en fait, elles pendent. Et donc, elles sont plus froides que le reste du corps. Donc, elles sont à 35 degrés d'habitude. Et là, en fait, c'est tout simplement les remonter, les coller plus proches du corps. Et donc, elles vont avoir... Enfin, leur température va augmenter à 37 degrés à peu près. Et donc, en fait, la spermatogénèse, la production de spermatozoïdes va se couper, quoi.
C'est voilà. Vraiment miraculeux.
Ouais, c'est pas mal. Il faut que ce soit porté tous les jours, 15 heures par jour. Voilà. Et ça prend à peu près 3 mois pour que ça fonctionne. Ça fonctionne au bout de 3 mois. Si on l'enlève pendant 2 jours, par exemple, si on ne le met pas pendant 2 jours, ça relance la spermatogénèse. Voilà. Mais il y a quand même des avantages super de déjà. Indépendance vis-à-vis des médecins, vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas d'hormones, c'est vraiment mécanique. Et donc voilà.
Il faut le mettre tout le temps, ce slip.
15 heures par jour.
15 heures par jour, ok.
Ouais. Voilà, il y a aussi d'autres méthodes qui ressemblent un peu. C'est un anneau thermique en silicone qui se met, je crois, en haut des couilles pour les remonter aussi. Et des slips chauffants, là, carrément, donc, où vraiment, tu as une espèce de lingette qui chauffe et qui fait que ça va à 41 degrés. Voilà. Ensuite, il y a le Vasal Gel. Donc ça, je trouve que c'est vraiment stylé. Donc c'est pas encore sorti. Apparemment, ce sera dans 5 ans. C'est en cours d'essai clinique aux États-Unis. En fait, c'est un gel qui est un peu comme un plastique qui est inséré dans les canaux déférents. Et donc, on peut le garder pendant 10 ans. Et c'est possible de l'enlever quand on veut. Ça ressemble un peu comme un stérilet, en fait. Enfin, le principe, quoi. On peut l'enlever quand on veut. Et voilà, ça peut être dissous. Donc, ça a l'air assez stylé, mais c'est pas encore disponible. Il y a aussi des injections hormonales. Donc ça, par contre, il faut le faire de manière hebdomadaire. Pareil, ça marche au bout de 3 mois. Sauf que c'est très, très peu prescrit. En France, il y a 2 médecins qui le prescrivent. En Belgique, je ne sais pas trop, mais donc, c'est quasiment rien. Alors qu'en fait, c'est des produits qui existent déjà et qui sont déjà validés par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est quand même assez pratique, je trouve. Voilà. Ensuite, il y a la fameuse pilule pour hommes. Alors, c'est vrai qu'on annonce tout le temps, voilà, ça va être dans 1 an, dans 5 ans, nanana. Bon, pour l'instant, il n'y a toujours rien. Enfin, en tout cas, apparemment, elle existe, elle est efficace, mais rien n'est sur le marché pour l'instant. Il faut savoir quand même que par rapport au financement, en fait, il y a très peu de financement pour cette fameuse pilule masculine. Par exemple, la pilule pour hommes, les recherches qui lui sont allouées, ça représente 6% de tous les financements pour la recherche sur la contraception dans le domaine pharmaceutique. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Il faut savoir aussi que pour la pilule féminine, en fait, à la base, la première pilule a été produite via des financements privés par une millionnaire des États-Unis. Et clairement, il y a beaucoup de millionnaires hommes et ils financent pas ça, quoi. Donc, voilà. On se pose des questions.
Bizarre.
Et aussi, un truc important, il y a aussi des normes différentes. En gros, dès qu'on voit que, quand il y a des tests, qu'il y a un impact négatif pour la libido des hommes, on coupe toutes les recherches. Alors que pour les femmes, on s'en fout complètement.
C'est fou.
Donc voilà. Pour les méthodes, donc je voulais aussi quand même dire que les hommes peuvent aussi, dans le cadre de relations hétérosexuelles, peuvent aussi s'impliquer dans la contraception de leur partenaire en partageant les coûts, la charge mentale, par exemple, pour prendre la pilule, en se renseignant aussi sur l'offre contraceptive qui existe, en participant à la décision, en se rendant à la pharmacie pour l'acheter, enfin voilà. Et il y a aussi, bien sûr, une autre possibilité, qui est de changer les clés de la sexualité hétérosexuelle. C'est pas forcément pénétration, pénis dans vagin qui éjacule, quoi. Enfin, le pénis qui éjacule dans le vagin. Voilà, il y a aussi d'autres manières de faire l'amour, d'avoir des relations sexuelles. Donc voilà. Donc juste pour conclure, je ne sais pas si j'ai encore le temps.
Bien sûr.
Oui. Donc il y a quand même des choses qui avancent. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà ? Donc déjà, on parle autour de nous. Dire aux mecs qu'ils doivent aussi un petit peu se bouger le cul et qu'ils doivent aussi chercher les informations parce que clairement, il y a des informations sur Internet. Enfin, j'ai quand même chercher pas non plus que 1000 ans et il y a des choses. Exiger aussi qu'il y ait plus de moyens pour la recherche, parce que c'est vraiment hyper important. Demander aux médecins qui présentent toutes les méthodes et pas juste sur notre tronche, nous dire ce qu'il faut faire. Et aussi éduquer les plus jeunes, notamment en Belgique, via une EVRAS, donc l'éducation à la vie sexuelle, relationnelle, affective, plus égalitaire. Voilà.
Je suis en tout cas bien d'accord avec tout ce que tu dis. En tout cas, dans cette émission, on s'est rendu compte que presque chaque sujet méritait une émission à soi tout seul, parce que on a tous été très vite pour présenter tout ce qu'il y avait à dire, et une heure, c'est clairement pas assez. J'aurais voulu aussi vous parler d'avortement. L'avortement, en effet, c'est un peu le dernier recours quand tout ce qu'on a parlé maintenant n'a pas fonctionné. Et on s'est rendu compte aussi que l'avortement méritait sûrement sa propre émission, tellement il y a de choses à dire qui ne pouvaient pas être contenues en une chronique de 5 minutes. Donc voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Je vais maintenant vous parler de quelques événements qui vont se passer dans le mois. Du 24 au 29 octobre, il y a l'exposition de Vulva la Vita, et de son art qui parle de vulve. Et ce sera à Anderlecht au mouvement Présence et Action Culturelle. Dans le cadre de cette expo, il y a une conférence débat déjà ce soir qui s'appelle « Le cachet, le tabou et la représentation du corps féminin ». Elle est diffusée en direct sur la page Facebook du mouvement, du coup « Présence et action culturelle ». Ils vont aussi diffuser le documentaire « Mon nom est Clitoris » qui sera disponible en libre accès du 28 au 29 octobre sur leur groupe « Projection débat de présence et action culturelle ». Rappelez-vous qu'Elles en parlent encore avait évidemment parlé de ce super documentaire et avait même invité une des réalisatrices en studio. Cet après-midi déjà, l'Assemblée bruxelloise vers la grève féministe de 2021 aura lieu de 13h à 18h au DK rue du Danemark par le collectif 8 mars. Le 5 novembre, projection du film « Tu enfanteras dans la douleur » au Tripostal, qui est un ciné-rencontre sur le thème des violences obstétricales. Du 13 au 15 novembre, il y aura le festival Alt X Fluid, qui célèbre les différents genres et sexualités et se tiendra rue du Pavillon à Skarbek avec des ateliers, des projections, des performances et plus d'infos seront à venir. Le dimanche 22 novembre, il y aura aussi devant la gare centrale un rassemblement contre les violences faites aux femmes de 12h30 à 15h. Je pense que vous pourrez y retrouver certains membres de « Elles en parlent encore ». En tout cas, je vous souhaite à tous un bon week-end et on remercie surtout la régie Steph et Alex qui travaillent dans l'ombre.
Bravo, merci.
Merci. On remercie les intervenantes à distance et nos chroniqueuses Alice, Lisa à distance, Bissy et Elsa en studio.
Et toi, Léa.
Merci. Et on vous dit de tenir bon, de garder le moral et de prendre soin les uns des autres et les unes des autres aussi. Et Bissy va maintenant nous introduire la chanson sur laquelle nous allons clôturer l'émission.
Super, Léa. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter un petit event. Il y a aussi le Elle Festival qui arrive fin novembre, du 26 novembre au 5 décembre. Ça va se tenir à la Rainbow House, mais aussi dans d'autres lieux. Il y aura des projections, des conférences, des débats. Presque tout sur inscription, Covid oblige. Mais voilà, on a très hâte que ça arrive. Et donc, ouais, je vous laisse sur un coup de cœur à moi, d'une amie à moi qui s'appelle Cello. La chanson s'appelle « Gib, was du hast », ce qui veut dire « Donne ce que tu as ». Et j'espère que vous allez kiffer autant que moi.
Abend und wir chillen auf dem Balkon. Rauchen letzte Kippe, hören deinen Song. Nimm noch einen Sip aus dem Glas. Aus dem Glas, frag mich, ob du noch ein bisschen Zeit für mich hast. Gib, was du hast. Nimm, was du willst. Gib, was du hast. Nimm, was du willst. Was du willst. Nimm dir, was du willst, ich würd dir alles geben. Zeig mir, wer du bist, ich will's mit dir erleben. Du siehst mich an, ich frag mich, was du denkst, was du denkst. Und dann merke ich, wie du an meinen Lippen hängst. Gib, gib, was du hast, nimm, nimm, was du willst. Gib, was du hast, gib, gib, was du hast, nimm, nimm, was du willst. Gib, gib, was du hast, nimm, nimm, was du willst. Gib, gib, was du hast. Was du hast, nimm, was du willst, was du willst.
Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.